quels que soient les événements de la vie, finalement, même s'ils ne nous conviennent pas sur l'instant, ils nous amènent à obtenir ce qu'on veut par la suite.
Bonjour, je suis Amélie Cordonnier. Bienvenue dans Secrets d'écriture, le podcast littéraire de la rédaction de Femmes Actuelles. Chaque semaine, un auteur ou une autrice partage avec nous ses secrets d'écriture. Aujourd'hui, nous recevons Maud Ankawa pour Respire, apparaître en poche aux éditions J'ai lu le 19 octobre 2022. Vous avez envie de lumière? Besoin d'air frais? Peut-être même de vous faire du bien? Vous êtes en quête de sens, je le sens. Vous cherchez à donner une nouvelle direction, peut-être même une autre signification à votre existence. Alors mettez vos pas dans ceux de Malo sans plus attendre. Maud Ankawa va nous lire un passage qu'elle a choisi et nous livrera ensuite quelques-uns de ses secrets d'écriture. Écoutons-la. Nous débutons toujours notre interview par une traditionnelle question qui a peut-être l'air simple, mais qui ne l'est pas forcément. Comment définiriez-vous en un mot l'écrivaine que vous êtes ?
En un mot, à nu. Une écrivaine à nu. Quel dommage, partir sans avoir goûté mes cocos locaux. Malo sursauta. Le canon froid du revolver se décolla d'un centimètre de sa tempe en sueur. Mais qui êtes-vous? Que faites-vous dans mon bureau? La vieille dame qui lui faisait face lui adressait un magnifique sourire. Affublée d'un tablier qui recouvrait sa robe, les cheveux grisonnants tirés en arrière, elle fixait les yeux du jeune homme dont le geste était resté figé en l'air. Malgré son petit 1m50, une force et une sérénité singulières émanaient d'elle. D'un pas rapide, elle s'approcha du bureau et lui tendit une barquette en aluminium contenant de petits gâteaux ronds. L'arôme de coco qui s'en dégageait embauma la pièce. « Ma fille dit que ce sont les meilleurs de toute la Thaïlande. Mais enfin, vous voyez bien que ce n'est pas le moment. Vous avez failli me faire peur. J'aurais pu tirer n'importe où. » D'où sortait cette femme? Depuis 3 mois que Malo travaillait chez X Software, il ne l'avait jamais vue. Pourquoi fallait-il qu'elle surgisse pile au moment où il venait de prendre la décision la plus importante de sa vie? Il était hors de question qu'une inconnue vienne contrarier ses plans. La colère prit le dessus sur sa détresse. « Je vous prie de sortir immédiatement. » La vieille dame déposa délicatement la barquette sur le bureau et recula d'un pas, laissant les effluves taquiner les narines de Malo. Le sourire toujours aux lèvres, elle restait silencieuse, sans esquisser le moindre geste pour quitter les lieux. Son regard, à la fois tranquille et empathique, désarma le jeune homme qui baissa la garde en même temps que son arme. « Et merde, pensa-t-il, même mon grand départ, je vais le fuir. » La femme s'approcha de nouveau avec douceur et picora un gâteau. « Fais-moi confiance, goûte-les, ils sont tellement meilleurs chauds. Tu auras tout loisir de tirer après. »« Tirer après ? Mais elle se moque de moi. »« Vous faire confiance ? Je ne sais même pas qui vous êtes. » La bouche pleine, elle mit sa paume sur ses lèvres le temps de déglutir. « Je suis désolée, je ne me suis pas présentée, je m'appelle Fueng, je suis la femme de ménage. » Elle lui tendit la main avec tant d'insistance que Malo se résigna à la lui serrer. J'ai choisi ce passage qui est le début du livre parce qu'il se passe quelque chose d'important. Hein. Le personnage principal, tout au début, est en train de se suicider, en train de tenter de se suicider quand cette femme arrive dans son bureau et alors qu'il a réfléchi pendant des heures, il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle et ça fait des années qu'il vit des choses difficiles et là il décide de mettre fin à ses jours. Quand cette femme entre dans ce bureau et arrive avec ses cocos locaux, ses petits gâteaux, et pour lui proposer un deal, donc tout arrive dès le départ sur ce début de livre. Donc je trouvais important de choisir le début du livre. Alors Malo, c'est un businessman qui travaille énormément pour oublier un peu son passé. Il a vécu des choses très complexes hein, depuis son enfance. Accident de sa mère, son père a très mal vécu cet accident de sa femme, il s'est mis à boire, donc Malo est confié à ses grands-parents, c'est compliqué pour lui, il vit une relation sentimentale très difficile, donc voilà, il s'est noyé dans le travail pour oublier tout ça. Et puis, ses investisseurs, donc il travaille pour des investisseurs, qui lui demandent de partir en Thaïlande pour aller redresser une société. Et le voilà embringué dans une toute petite boîte, là où il a l'habitude de travailler avec des grosses entités à New York. Le voilà embringué dans une toute petite boîte. Il doit passer quelques jours. Et il apprend, donc ça c'est tout au début du livre, que visite d'expatrié que eh bien il a une maladie grave, une maladie dégénérescente qui risque de le condamner. Et donc, il va voir la vie complètement différemment. Fouenc va lui proposer un deal, elle va lui proposer d'acheter 30 jours de sa vie. Donc elle lui pose la question de combien vaut une journée de ton temps, parce qu'elle a à cœur de vouloir acheter 30 jours de son temps. Hein. Donc faut remettre le contexte, c'est une femme qui est femme de ménage et elle demande à un chef d'entreprise combien vaut une journée de ton temps et il lui dit un peu désabusé après toutes ces questions qui l'ennuient alors que lui il est en train de se suicider donc il a pas envie d'être dérangé pendant cet acte et il lui balance 3 000 euros par jour et elle se déconcerte pas elle lui dit très gentiment très bien moi j'en achète 30 j'ai pour projet de décaler ton suicide de 30 jours. Alors Fouenc, c'est un personnage effectivement sage, en tout cas qui est assez résiliente. Elle a une vie difficile, elle a fait des choix difficiles dans sa vie. On le découvre à travers le livre. Et elle a appris petit à petit cette résilience. Elle a appris petit à petit à en tirer des forces. Et qu'est-ce que j'avais à cœur derrière, c'est de partager des choses qu'on pourrait tous reconnecter, si tant est qu'on ne se victimise pas dans ce qui nous arrive. L'idée de ce livre, c'est vraiment, malgré les choses difficiles qu'on a pu vivre les uns les autres, peut-être qu'on peut transformer notre passé. Alors, on ne peut pas transformer les événements, mais on peut transformer la perception qu'on a par rapport à ce qu'on a vécu et le transformer pour, pourquoi pas, inspirer les autres, pourquoi pas partager des choses avec les autres. Alors en fait, je sortais du livre Kilomètre Zéro que j'avais écrit pour mes amis uniquement et j'ai eu à cœur de leur offrir Kilomètre Zéro. Et il y a eu un engouement autour de ça. Alors bon, c'était mes amis. Quand j'ai offert une centaine de livres, bon, j'ai pas 100 amis, mais des relations, des gens que j'aimais, des gens qui m'avaient aidé. Je leur ai offert ce livre et ils ont eu envie de le partager. C'est parti comme ça et de ce fait, les lecteurs s'en sont emparés. Il s'en est vendu 10 000, puis 20 000, puis 30 000, puis on est à quelques milliers. Et donc, j'ai eu envie de remercier les lecteurs à travers un second roman, puisque le premier, je l'avais vraiment écrit pour mes amis, à nu, sachant que ce sont deux histoires vraies. Hein. Réellement, 95% du livre est vrai. Il y a une romance autour de ça, mais 95% du livre est vrai. J'avais envie de remercier les lecteurs de ce qu'ils avaient fait pour Kilomètre Zéro. Et j'ai écrit ce deuxième roman pour eux. Et je me suis mis à nu, une nouvelle fois pour partager des clés qui m'aident au quotidien. Pendant des années, je me cachais derrière des costumes de dirigeants, de femmes d'affaires, d'un tas de choses. Et puis, on n'est pas aussi... en tout cas, pour moi, je n'étais pas aussi authentique que je ne peux l'être dans ces romans où là, effectivement, je suis en pleine vulnérabilité, avec mes défauts, avec mes failles, et finalement de pouvoir être tel qu'on est. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup aidée personnellement, puisque le fait qu'il puisse avoir cet engouement, et les gens associent très vite l'auteur à ce qu'il écrit, et ils n'avaient pas tout à fait tort, puisque je crois que mes amis me le disent, hein, je suis l'addition des personnages à chaque fois, puisque je suis à la fois question-réponse, hein, évidemment. Eh bien, c'était d'être tel qu'on était, avec ses failles, avec ses faiblesses, mais aussi ses forces, et puis de se mettre sans se cacher, sans filtre, à travers les personnages. Quand je dis que effectivement le roman et les romans sont vrais à 95%, je me sers beaucoup de mon histoire, mais aussi de l'histoire des autres. Hein. J'accompagne, je coach un certain nombre de personnes. Et puis, parfois, les images des personnages secondaires, les histoires des personnages secondaires, c'est je vais chercher des problématiques qu'on peut poser en coaching avec les gens que j'accompagne. Donc, il y a plusieurs personnes dans ces romans, dont ma vie, dont la vie croisée des autres. Mais finalement, on vit tous un peu la même chose. Là, je parle d'émotions beaucoup. Quels que soient les événements, on vit d'une manière ou d'une autre un peu tout ça. Alors le titre, il y a une histoire de titre sous-titre hein, chez les éditeurs, donc c'est Respire le titre, le sous-titre, c'est Le plan est toujours parfait. Alors comment ça m'est venu ? Ça m'est venu pendant l'écriture, ce qui n'était pas le cas de Kilomètre Zéro qui est venu plutôt à la fin, mais le titre c'est toujours compliqué pour moi parce que j'ai besoin souvent d'écrire le livre en entier avant de trouver le titre. Et là, J'aimais particulièrement Le plan est toujours parfait, mais qui n'était pas forcément compréhensible de l'extérieur, surtout quand avant de lire le livre. Or, un titre, c'est quand même souvent avant de lire le livre qu'on doit le comprendre et non pas une fois qu'on l'a fini. Le plan est toujours parfait pour moi, c'est ce qui m'aide beaucoup. C'est de se rendre compte que quels que soient les événements de la vie, finalement, même s'ils ne nous conviennent pas sur l'instant, ils nous amènent à obtenir ce qu'on veut par la suite. Donc, le plan est toujours parfait, c'est une sorte de faire confiance à ce qui arrive. Même si sur l'instant, c'est extrêmement compliqué. Hein. Votre mari vous quitte, votre femme vous quitte, vous êtes licencié. Le plan parfait, merci Maud, mais ce n'est pas super, super cool. Et en même temps, eh ben, parfois, on se rend compte que c'est peut-être pour du mieux. En tout cas, il y a cette envie de croire en quelque chose de plus fort après. Oui, je commence chaque chapitre par une citation. Alors déjà, parce que j'aime beaucoup les citations. Je trouve que parfois, une citation peut aider énormément. Simplement se rappeler une citation, eh bien, hop, ça nous donne un petit coup de fouet. Par exemple, moi, quand j'écrivais Kilomètre Zéro, c'était tout au début. Je procrastinais beaucoup, j'arrivais à rien. En plus, je viens d'un monde scientifique et pas littéraire. Je vais jamais y arriver, etc. Et il y a une citation que j'avais écrite, vraiment, tout au début de mon Word, qui était « Si tu te décourages, rappelle-toi pourquoi tu as commencé ». Et en fait, ça m'a beaucoup aidée parce que j'écrivais pas pour être célèbre, j'écrivais pas, bon, je venais du monde de l'entreprise, j'avais fait mes preuves, donc j'écrivais pas pour gagner de l'argent ou autre, j'écrivais parce que si un mot, une phrase pouvait faire du bien à une personne, j'avais raison de me lever à 4 heures du matin et d'écrire encore, et de tomber, et de trouver ça nul, et de procrastiner, etc., et d'aller jusqu'au bout. Généralement, j'écris mon livre en entier, et puis après, même les chapitres, des fois, je les découpe après. Certains chapitres, je les coupe plus tôt, ou je les rallonge, etc. Et à la suite de quoi, ben, j'aime noter un certain nombre de citations avant même d'écrire. Mais ça peut m'arriver de lire une citation, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la rue, que dans un livre. Et hop, je note ce que je trouve inspirant, et puis à la fin, je choisis un certain nombre de citations qui correspondent quand même un peu à l'idée du chapitre. C'est une sorte de résumé un peu parfois du chapitre. Alors, les prénoms de mes personnages, je choisis toujours des prénoms que je ne connais pas. Alors, non pas dans le prénom, mais des gens qui ne sont pas associés à ces prénoms de mon entourage. Par exemple, Malo, je ne connaissais aucun Malo. Maëlle, pareil. Alors, comment je l'ai choisi ? Je l'ai choisi. Alors, par exemple, pour Maëlle, pour Kilomètre Zéro, j'avais aucune idée de comment allait s'appeler ma protagoniste, donc Maëlle. Et un jour, j'étais dans le métro et je vois dépasser d'un cartable ou d'un sac de cours une fille de la fac, enfin une Maëlle de la fac, et son prénom dépasse de son espèce de carnet de correspondance, je ne sais pas comment l'appeler, et il y avait marqué Maëlle, et je ne connaissais pas du tout ce prénom. Donc, je suis allée chercher immédiatement en rentrant et je trouvais ça très, très joli comme prénom. Alors, je vois prénom breton, etc. Je dis, voilà, c'est ce prénom-là. Et donc, je ne connaissais pas de Maëlle dans mon entourage et ça s'est fait comme ça. Pour Malo, j'étais en vacances avec des amis et on rencontre d'autres couples d'amis et ces amis-là me parlent de leur fils qui s'appelait Malo. Je ne savais pas que c'était un prénom. Il me dit, oui, Saint-Malo, tu connais. Oui, je connais la ville, mais oui, mais c'est un saint aussi. Et voilà. Et j'ai trouvé le prénom, mais vraiment magnifique. Je dis, mon protagoniste s'appellera Malo. Et je leur ai dit, en séance, je suis en train d'écrire un livre, et il s'appellera Malo. Mais je ne sais pas associer quelqu'un que je connais. Donc, les personnages principaux sont souvent des gens que je ne connais absolument pas ou je ne peux pas mettre de visage. Des fois, je connais le prénom, mais je ne connais pas de personne qui s'appelle comme ça.
Donc maintenant, si vous le voulez bien, Maud Ankawa, j'aimerais vous proposer de répondre à notre interview du Tac au Tac. Êtes-vous une écrivaine diurne ou nocturne ?
Alors, je commence à 4 heures du matin à écrire, alors je ne sais pas quoi répondre, mais définitivement, je suis diurne.
De la semaine ou du week-end ?
Ça n'a pas d'importance. Je travaille aussi bien, je travaille du lundi au dimanche, et donc je ne fais pas de choix entre semaine et week-end.
Plutôt canapé, lit ou bureau ?
Pour écrire, bureau.
Solitude ou bistrot ?
Solitude.
Carnet ou ordinateur ?
Ordinateur.
Robert ou Larousse.fr ?
Larousse.fr.
Première ou troisième personne du singulier ?
Troisième personne du singulier.
Présent ou passé ?
Passé.
Whisky ou café ?
Café.
Chocolat ou cigarette ?
Chocolat.
Et musique ou silence ?
Pour écrire silence, sinon musique.
« Est-ce qu'il vous est arrivé d'écrire ce roman dans un état second? Et vous avez le droit d'entendre état second comme vous le souhaitez.
Ah ben, je crois que je suis toujours en état second, en fait. Non, j'ai besoin de ressentir quelque chose qui vibre. État second, c'est pas sous drogue ou sous alcool. Je joue pas très ni drogue ni alcool, mais second, j'ai besoin d'être alignée, j'ai besoin d'être calme, j'ai besoin d'être seule. Donc oui, j'ai besoin d'être concentrée.
Pour vous, qu'est-ce qu'une journée d'écriture réussie?
Eh bien, j'allais dire une journée où j'écris, c'est-à-dire qu'il en sort quelque chose parce que je peux mettre des heures et des heures à écrire une phrase, deux phrases, trois phrases. Donc une journée réussie, je suis très très laborieuse à l'écriture. Donc une journée réussie, c'est une journée où j'écris et je sens qu'il y a un truc qui vibre dans ce que j'ai écrit. Ça, c'est vraiment une journée d'écriture réussie.
Qui est votre premier lecteur?
La personne qui m'accompagne.
Quelle faute d'orthographe colle à votre stylo?
Alors plein, je pense. Non, souvent des participes passés, un peu complexes, les CO déplacés avant. Oui, je pourrais dire ça. J'ai pas un mot. J'ai pas en tête un mot pour lequel je pourrais faire toujours la même faute, mais des participes passés, oui.
Alors, est-ce qu'il y a un mot que vous détestez en revanche et que vous employez jamais?
Mais jamais, je crois. Le mot jamais au sens et plus jamais sans moi, c'est le titre de mon troisième roman. Mais j'aime pas l'idée que ce soit pas possible, en fait. Il y a un truc comme ça. Mais un mot que je déteste... Non, je crois pas qu'il y ait un mot que je déteste. Si, peut-être le mot haine. Je l'emploie pas beaucoup, haine. Je trouve ça un mot très très dur, très très violent.
À l'inverse, est-ce qu'il y a un mot que vous affectionnez particulièrement?
Bah oui, le bonheur, la bienveillance, probablement. Oui, le bonheur, je pense que c'est un mot que j'utilise beaucoup.
Est-ce que vous avez un tic d'écriture?
Oui, j'ai besoin... Quand j'écris, par exemple, je vais me laver les mains. C'est instinctif chez moi. J'ai joué longtemps du piano. Il fallait absolument se laver les mains avant de jouer au piano. Il y a quelque chose d'un peu obligatoire sur le clavier, comme si j'allais pianoter quelque chose. Donc, c'est peut-être un peu mon tic. Comme c'est difficile pour moi d'écrire, par exemple, si, il y a un tic qui est que je me dis, bon, je vais écrire une heure et alors après, je vais me faire un petit café. Je vais écrire une heure après et puis je vais aller me manger une figue. Il y a comme des espèces de récompenses. Allez, j'y vais, c'est peut-être ça, des espèces de récompenses toutes les heures à l'écriture.
On parle un petit peu de vos lectures, si vous le voulez bien. Quel est le livre qui a marqué votre enfance?
Alors, enfin, je lisais très peu. J'ai appris à lire comme tout le monde, mais j'ai lu très tard. J'ai commencé par toute petite enfance, mon livre préféré c'était Winnie l'ourson, que ma mère me le répétait en boucle dès qu'elle voulait changer de livre pour me lire une histoire. C'était non, je veux celui-là. Donc ça, je me rappelle très bien. Et après, un peu plus tard, j'étais passionnée par les Molières. Donc là, bien plus tard, hein, parce que là je vous parle de Winnie l'ourson à 3-4 ans, avec les Molières, peut-être j'ai commencé vers 15-16 ans mes premières vraies lectures, mais j'étais pas ni Bibliothèque Rose, moi j'avais plein de copines qui lisaient un tas de romans Bibliothèque Rose, Verte, etc. C'est déjà compliqué pour moi, donc j'étais pas dans ces lectures-là.
Quel est le livre qui a pu vous faire pleurer?
Il y en a beaucoup, là. Alors aujourd'hui, je peux dire qu'il y en a beaucoup. Même des manuels comme un livre comme Edgar Tolle qui m'a profondément Le pouvoir de l'instant présent, qui est pourtant c'est pas un roman, mais ça m'a émue aux larmes parce que ça venait toucher des choses dans mon cœur. Après, il y a plein de livres, j'aime beaucoup les romans français, il y a beaucoup de romanciers français comme Agnès Ledy, comme Agnès Martin Lugan, comme Virginie Grimaldi, tous ces livres là me touchent. Il y a plein de livres qui me touchent et je suis plutôt dans des lectures de romans émotionnels. Je lis très peu de polar, j'en connais pas bien d'ailleurs. Donc ça peut vite me toucher, oui.
Avec quel écrivain vivant ou mort aimeriez-vous dîner?
Peut-être Marcel Pagnol. Aujourd'hui, je vis un peu dans le sud et puis j'aime sa façon de chanter. Ça m'inspire beaucoup, sa façon de chanter dans son écriture. Hein. J'aime ce qu'il écrit, j'aime les émotions qu'il dégage. Peut-être Marcel Pagnol.
Vous nous avez parlé tout à l'heure de votre prochain roman, donc ça y est, normalement je demande, avez-vous commencé votre prochain roman?
Ouais.
Vous l'avez terminé, j'ai l'impression.
Oui, il est terminé, il sort le 5 janvier, Plus jamais sans moi. Donc oui, il est terminé. Alors j'écris peu, hein, j'écris il en sort un tous les 3 ans à peu près. Mais il est vraiment en phase, en ligne avec moi, et aligné en tout cas avec ce que j'ai envie de passer, et effectivement il sort le 5 janvier.
Et notre toute dernière question, Maud Ankawa, est-ce que vous nous avez confié tous vos secrets d'écriture ou est-ce que vous en avez gardé quelques-uns pour vous?
J'aimerais avoir des secrets, j'aimerais tellement... Si, sans doute une chose qui m'avait été dite et qui m'a énormément aidée, qui m'aide de tout le temps, c'est d'écrire le plus authentique possible. Et je crois que ça, c'est un vrai secret pour moi, que de jamais transgresser ça. C'est-à-dire que si c'est, la phrase ne me fait pas vibrer, si c'est pas complètement aligné avec ce que j'ai envie de dire, eh bien, il faut savoir l'effacer et aller au plus profond de ça. Ça, c'est pour moi un grand secret. Enfin, c'est pas un grand secret, c'est quelque chose de très important quand j'écris. Quand je relis, par exemple, ce grand bon, parce que j'écris de A à Z, c'est presque illisible, même pour moi, presque. Les phrases sont mal faites, etc. Mais j'écris jusqu'au bout un livre, et puis après, je retravaille les phrases, etc. Et puis, quand je relis et que je vois qu'il y a un passage, même tout un chapitre qui n'est pas complètement aligné, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, juste du remplissage, hop, je vire. Et j'essaie de rentrer dans le plus authentique possible. Donc oui, ça, c'est un vrai secret pour moi, un vrai secret d'écriture.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci, et merci infiniment à vous.
Merci à Maud Ankawa et aux éditions J'ai lu. Je rappelle que Respire a paru le 19 octobre 2022. Si ce podcast vous a plu, ce que j'espère vivement, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous laisser vos commentaires. Et puis, pour découvrir de nouveaux secrets et les coups de cœur de la rédaction, rendez-vous en kiosque ou sur femmeactuelle.fr. À bientôt.